7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisines et de voisins. Nous sommes aujourd'hui à Deauville, au Women's Forum, 10e édition pour cette sorte de Davos des femmes. Se parler et agir avec plus de 1000 participantes venues de 70 pays. Et nous, chez 7 milliards, eh bien, nous avons posé notre studio au milieu de cette ruche pour accueillir trois femmes engagées. Nouchka Texera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes congolaise, née dans le Kasaï occidental, en République démocratique du Congo, passée par l'Europe, aujourd'hui de retour à Kinshasa. Vous êtes la fondatrice et directrice d'un foyer pour des très jeunes filles des rues, victimes de violences. Le foyer s'appelle Matumaini.
C'est exactement ça. Et j'ai une trentaine de jeunes filles actuellement.
Et ça veut dire en
Swahili. Matumaini veut dire espoir.
Et vous êtes surtout l'une des lauréates du prix Women for Change de la Fondation Orange qui a été décernée avant-hier soir.
Exactement.
Ça veut dire que vous allez revenir les poches pleines à Kinshasa.
Oui, pour un super projet que j'avais proposé pour mes jeunes filles. Je suis très contente et je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont voté pour moi hier.
25 000 euros, hein, c'est ça?
Exactement.
Le prix. Elisabeth Bierce, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du PAM, le Programme Alimentaire Mondial. Vous nous parlerez des 5 grandes urgences pour le PAM et les femmes en première ligne des conflits ou de l'épidémie Ebola.
Oui, absolument, puisque sur les 805 millions de personnes qui n'ont pas assez à manger dans le monde, 60% sont des femmes.
Sans parler des enfants qu'elles ont la charge de nourrir.
Voilà.
Muriel de Saint-Sauveur, bonjour.
Bonjour.
Vous appartenez à un cabinet d'audit et de stratégie. Vous êtes la directrice de la diversité du groupe Mazars. Et vous venez de réaliser une étude sur 3 générations de femmes dans une centaine de pays, du Pakistan à l'Europe. Que veulent les femmes? En quoi ont-elles changé? Vous nous parlerez de cette évolution ou de cette révolution, mais assez silencieuse quand même.
Oh, pas tout à fait. Ça dépend des pays. Vous savez, nous avons eu 2300 réponses de 108 pays par réseaux sociaux. Donc, c'est pas si silencieux, cette révolution.
Voilà, c'est la
révolution. Et je serais ravie de vous en parler.
Sur les réseaux sociaux, ça n'est pas silencieux. En tout cas, c'est une révolution qui change forcément un peu le visage des 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin. Le monde est un village planétaire.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose, quelque part, qui nous rapproche.
Eh ben, tiens, il y a quand même une émission qui pense à tout le monde.
Il y a tellement de richesses ailleurs.
7 milliards de voisins. Mais entre nous, là, entre les voisins.
7 milliards de voisins?
Oui.
C'est maintenant.
7 milliards.
Nouchka Texera, Elisabeth Bierce et Muriel de Saint-Sauveur. Le Women's Forum est un lieu d'échange, de réseautage entre femmes. D'habitude, c'est vrai que c'est très tourné vers le business. Cette année, c'est sous la bannière du développement durable. Peut-être je vais m'adresser à vous, Muriel de Saint-Sauveur, puisque vous êtes presque une vétérante du Women's Forum. C'est la 10e édition et vous venez au Women's Forum depuis 8 ans.
Oui, parce que lorsque cela a été créé par Aude de Thouin, elle voulait donner la parole aux femmes sur des sujets de société, et elle voulait aussi que les femmes présentes puissent inviter des femmes des pays émergents qui, elles, n'avaient pas les moyens de venir. Et dès le début, il y a eu ce côté international. Et puis, il y a eu un second aspect qui était absolument fantastique. Nous sommes présents au Discovery Corner. Ce que vos personnes qui nous écoutent ne peuvent pas savoir, c'est que ce Discovery Corner, c'était son idée pour être un endroit de convivialité, de réseautage et d'avoir autant la photo du photographe, comment équilibrer sa vie et le café offert par quelqu'un. Et ça, c'est unique.
Qu'est-ce que vous êtes venues chercher finalement toutes les trois dans cet entre-soi féminin, Elisabeth Bierce?
Tout d'abord, ma directrice exécutive est venue au forum justement pour mobiliser les participants, les entreprises privées, pour essayer de mobiliser des fonds, car actuellement, le Programme Alimentaire Mondial a d'énormes problèmes de contribution. Mmh. On fonctionne cette année avec 4 milliards de dollars pour essayer de nourrir 90 millions de personnes dans à peu près 80 pays. Et l'année prochaine, les besoins qui augmente chaque jour avec les crises, on va avoir besoin de 8 milliards de dollars et on est à court de financement. Donc,
vous êtes venu là vraiment chercher des contributions, on peut le dire, aussi clairement que ça?
On est venu mobiliser parce qu'en fait, le but de la mobilisation, c'est d'inciter les bailleurs de fonds. Ça peut être des États membres, ça peut être des individus.
Mais pourquoi qui on rencontre ici de si important alors, au
Il y a quand même de grandes compagnies qui sont représentées et si on peut.
On va citer Orange notamment.
Il y a Orange, il y a la Fondation Fondation Cartier, il y a Nissan, et notre but...
Ça c'est la liste de vos rendez-vous, c'est ça, pendant les 48 heures à peu près?
Non, pas forcément, mais je crois que l'audience, la plénière, a pu entendre le message. Maintenant, on espère avoir un retour et avoir des partenariats peut-être avec de grandes compagnies.
Nouchka Texera, pour vous?
Mais c'est un petit peu la même chose que Madame Biers à côté de moi. Ce que je voulais voir ici, c'était vraiment d'abord la première chose, c'était faire connaître mon association, faire connaître ma mission et mon combat par rapport aux jeunes filles dont je m'occupe. En général, les associations RDC n'ont pas une très bonne image. Et j'avais besoin qu'on puisse vraiment se rendre compte de ce qu'était Matoumaini, de la crédibilité de notre combat.
Réseauter, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? On dit beaucoup que les femmes, à cause de leurs obligations familiales, n'ont pas le temps d'entretenir leur réseau. Pour nos auditeurs qui nous écoutent à l'autre bout du monde, qu'est-ce que ça veut dire réseauter très concrètement? Parce que c'est ce que vous êtes venues faire ici, toutes les trois.
Exactement, oui.
Pour vous, Nouchka?
Pour moi, réseauter, c'est vraiment pouvoir rencontrer d'autres femmes qui sont dans le même domaine et qui ne sont pas dans le même domaine, mais qui ont des responsabilités, qui travaillent dans des sociétés, qui peuvent aujourd'hui, comme on sait que dans la majorité des sociétés aujourd'hui, il y a tout ce qui est responsabilité sociale.
Ouais.
Donc, on n'est pas obligé de se focaliser sur des personnes qui travaillent juste dans le même milieu que moi. Donc, toutes les sociétés, toutes les personnes que je rencontre, pour moi, peuvent être des personnes potentiellement
Et c'est important pour vous de savoir aussi comment vous êtes perçue dans votre façon de parler de votre association, comment est perçu votre projet.
Exactement. Ouais. Et c'est la première fois que je suis vraiment mise comme ça aux yeux de tout le monde et que l'association est vraiment mise comme ça en avant. Et c'était très important pour moi. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'étais très contente d'avoir gagné plutôt le prix spécial ici sur place, parce que ça démontre directement des personnes qui ne me connaissent pas personnellement, qui ont apprécié le projet et qui ont voté pour cela.
Les filles donc, des rues que vous recueillez dans votre foyer, une trentaine de filles à Kinshasa, elles sont au courant, vous les avez appelées là pour leur dire que vous, l'association avait gagné. Oui.
Je les ai appelées ce matin, elles étaient super contentes. Attendaient ça, elles ont crié dans tous les sens, elles attendaient ça depuis trois
semaines.
Maman
Nouchka, c'est comme ça qu'elles vous appellent?
Exactement. Maman Nouchka, on a gagné. Elles ont hurlé au téléphone, c'était magnifique.
Est-ce qu'elles savent que ça va améliorer aussi les conditions de vie du foyer?
Oui, elles savent que c'est pour elles. Elles savent que c'est pour elles.
Noyelle de Saint-Sauveur, alors pour vous, réseauter ici au Women's Forum, qu'est-ce que ça veut dire?
Réseauter, c'est apprendre ce que les hommes savent faire depuis très longtemps, c'est-à-dire parler de ce que l'on fait dans un environnement de personnes que l'on n'aurait pas forcément l'opportunité de rencontrer dans sa vie quotidienne. Et c'est un échange qui se crée. C'est comme dans toutes les relations, il faut commencer par donner dans le réseautage. Et nous sommes venus chez Mazar ou Men's Forum il y a longtemps parce que j'avais décidé que le nombre de femmes qui n'était pas suffisamment important en haut de l'échelle chez Mazar devait progresser. Et pour convaincre, j'ai eu envie de montrer à notre conseil d'administration que le monde entier avait ce sujet sur la table des conseils d'administration. Et ça a convaincu mon président de voir d'autres entreprises avoir la même question.
Toutes les trois, là, vous êtes engagées d'une certaine façon chacune avec vos fonctions pour la cause des femmes. Néanmoins, vous n'auriez pas l'occasion de vous rencontrer si vous n'étiez pas au Women's Forum à Deauville.
C'est une opportunité incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à...
On n'est pas forcément dans les mêmes milieux, mais on a la même envie.
Exactement.
Pas du tout.
Exactement.
I can be final.
Le titre, c'est Black Pack, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Petite Mellers, c'est une américaine de Paris et elle fait du nouveau jazzy pop, comme elle dit elle-même. On est au Women's Forum, dans cet entre-soi féminin pour parler de la cause des femmes avec trois femmes engagées, chacune de leur façon pour la cause des femmes. Elisabeth Birce, vous êtes porte-parole du Programme Alimentaire Mondial. Vous êtes venue ici poussée par l'urgence, on peut le dire. L'urgence pour les femmes et les enfants. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que votre organisation internationale n'a jamais été tendue à ce point-là par des urgences multiples aux quatre coins du monde?
Oui, c'est exact. C'est la première fois qu'on fait face, ainsi que le reste des agences de l'ONU, à cinq crises majeures. C'est-à-dire qu'on a la Centrafrique, le Sud-Soudan, l'Irak, la Syrie, qu'on croyait être déjà l'apothéose des crises, puisqu'elle dure depuis presque 4 ans maintenant, et elle est énorme, elle aspire beaucoup de contributions financières, et on voit maintenant Ebola. Et Ebola, c'est 3 pays affectés, Guinée, Sierra Leone, Libéria. Et on a
dans une moindre mesure la RDC, mais de manière effective.
La RDC, bien sûr, et malheureusement, en République démocratique du Congo, on a dû couper certains programmes, fermer certains bureaux, 5 bureaux sur les 14 bureaux de République démocratique du Congo, pour une raison financière, parce qu'on n'avait pas les fonds pour continuer.
Ebola est en train de dévaster les familles, les villages, les dégâts collatéraux commencent en fait tout juste à être chiffrés, non ? Les dehors des morts.
Les premières évaluations arrivent. On voit l'impact. Il va y avoir un impact déjà énorme sur la sécurité alimentaire dans ces pays. Et on voit, d'après les évaluations qu'on a faites par téléphone pour éviter la contamination, ça se fait par téléphone mobile, on interroge. Les gens ont commencé à réduire les repas. Ils commencent à consommer une nourriture moins chère. Ils ne consomment plus de riz, mais de la farine de cassave. Les paysans ont abandonné les champs. Il y a eu un chiffre qui a été donné pour la Sierra Leone, qui est de 40% de champs abandonnés.
Mais il faudrait confirmer pour la Sierra Leone.
On attend de confirmer ce chiffre, ça ne vient pas de nous. On saura plus fin octobre, mais les dégâts
Ça pourrait être plus important au Libéria encore, le nombre de champs abandonnés qui ne sont plus en culture.
On n'a pas encore d'informations précises, mais on sait que beaucoup ont abandonné les champs, que ceux qui représentaient la force de travail, certains sont morts. Ça va être des conséquences économique grave et pour la sécurité alimentaire également. C'est vraiment dramatique et on en est qu'au début si ça continue à ce niveau-là.
Pour le moment, on ne compte que les morts de la maladie, du virus, tous ces dégâts collatéraux. À terme, que va-t-il se passer dans les familles? Ce sont les femmes qui vont principalement aux champs, qui tiennent une partie de l'agriculture sur le continent africain, qui nourrissent leurs enfants. Que va-t-il se passer? Que se passe-t-il déjà?
Oui, parce que 8 personnes sur 10 en Afrique est une personne qui travaille dans le secteur agricole, une femme qui travaille la terre. Et c'est à elle qu'il faut donner le pouvoir maintenant. Il faudrait dans l'absolu, dans le meilleur des cas, leur donner les capacités de pouvoir avoir accès aux mêmes avantages économiques que les hommes, c'est-à-dire accès à la terre, accès au financement, aux prêts, accès à la technologie, au matériel agricole, et leur donner les possibilités d'avoir les mêmes atouts. Si elles les avaient, on aurait 100 millions à 150 millions de personnes supplémentaires qui mangeraient à leur faim si on donnait juste cette égalité d'accès aux femmes.
Dans les pays qui ne sont pas victimes de conflits ou d'épidémies, là dans un cas où ça fonctionne.
Quand ça fonctionne, mais même dans tous les cas, si on peut donner à la petite exploitation familiale les moyens à ces femmes de nourrir leur famille, c'est elles qui s'occupent des enfants, c'est elles qui nourrissent la famille. Et si elles ont un revenu supplémentaire, elles l'utilisent pour l'éducation des enfants, pour la santé de leur famille et de leurs enfants. Donc c'est un cercle qui génère une génération qui sera beaucoup plus à même d'avoir une force de travail efficace.
Ebola, Centrafrique, le Sud-Soudan, l'Irak, la Syrie, 5 urgences pour le PAM, plus tous les programmes habituels qui bien sûr continuent, ne sont pas arrêtés, les programmes de cantine scolaire notamment sur le continent africain. Il y a une concurrence des drames à l'heure actuelle.
Oui, je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'une crise chasse l'autre, que ça va très très vite. Notre personnel sur place doit continuer de travailler. Il lui faut du financement. Alors on oublie le Mali, on oublie le Niger, on oublie ces crises oubliées, les crises silencieuses. La Centrafrique, qui s'en occupe encore? C'est une de nos urgences. Et on a vu qu'il y avait un regain de violence d'ailleurs là récemment à Bangui. Donc les distributions sont interrompues. Ça a un impact sur les opérations du PAM.
En 2014, vous aviez quoi? 4 milliards de budget, 4 milliards de dollars de budget?
4 milliards dépensés pour le moment. Ouais. Et il faudrait 6. Et
pour 2015,
il nous faudra 8 milliards. Et je suis vraiment très inquiète parce qu'on voit qu'on est obligé de réduire les rations, notamment en Syrie, parce que on n'a pas assez de financement. Donc on est passé de 2000 et quelques calories par jour à la moitié, à 1000 calories. On enlève quelque chose dans la ration mensuelle alimentaire des familles. On leur enlève un élément, ça peut être de la viande en boîte ou des céréales.
Mouchka Teixeira.
Je voulais poser une question à madame, en fait, mais qu'est-ce qui fait que vos budgets diminuent de manière aussi conséquente?
En fait, ce sont les contributions qui arrivent ou lentement ou n'arrivent pas. Je crois que les donateurs, les bailleurs de fonds, qui sont en grande partie des États membres de l'ONU, sont déjà les bailleurs traditionnels, sont pris à la gorge. Les budgets humanitaires ne sont pas extensibles à l'infini. Et l'idée serait de monter à bord du bateau les grands donateurs, les pays émergents, que ça soit la Russie, le Brésil, la Chine. On se tourne aussi beaucoup vers les pays du Golfe, qui financent maintenant, qui commencent à financer. Et c'est vraiment extrêmement important. On peut pas laisser tout le poids du financement humanitaire, un petit groupe de pays habituel.
Alors, on a balayé la planète, ou en tout cas le pire de la planète avec vous, Elisabeth Birs, porte-parole du programme alimentaire mondial. Mouchka Teixeira, là je voudrais qu'on fasse un focus sur votre association à Kinshasa. Vous avez un parcours assez singulier. Vous êtes esthéticienne de formation, vous avez grandi en Europe, au Portugal, en Belgique, vous avez travaillé dans la communication, dans la publicité. Aujourd'hui, votre quotidien à Kinshasa ressemble à quoi finalement?
Mon quotidien aujourd'hui, c'est essentiellement Matumaini.
Le nom du foyer,
voilà,
Espoir.
C'est le centre, mon Swahili. Centre d'hébergement. Donc j'ai une trentaine de jeunes filles. Ça varie un petit peu en fonction des périodes parce que je travaille avec le tribunal pour enfants et on est dans un programme de réunification en famille, ce qui est obligatoire. Ça se passe pas toujours bien, les conditions sont pas toujours réunies pour qu'elles puissent retourner dans leur famille. Je rejoins là ce que madame Elisabeth vient de dire, dans le sens où, avant de penser réunification en famille, parce qu'on a énormément de budgets qui sont mis là-dessus, je pense qu'il faudrait d'abord pouvoir donner l'occasion à ces familles de pouvoir retrouver le moyen de se nourrir, avoir un minimum de financement pour pouvoir avoir un minimum de vie correcte, pour que ces enfants aient envie d'abord de rester chez eux parce qu'ils savent qu'il y a à manger et que maman peut me nourrir tous les jours et qu'ils n'aient pas envie d'aller à l'extérieur mendier, etc. Donc je trouve qu'il y a un problème déjà de ce côté-là, ce qui fait que nous on intervient, Matumaini intervient au moment où justement il n'y a aucune réunification possible.
Pour ces familles, qu'est-ce qui fait que ces familles ont été, pour ces enfants, pour ces petites filles de 6 à 13 ans que vous recueillez, qu'est-ce qui fait que ces familles ont été éclatées, que ces petites filles se retrouvent à la rue, que ça passe par le tribunal pour enfants et que vous les recueillez?
J'ai différents cas dans les enfants qui sont à Matumaini aujourd'hui. J'ai d'abord tout ce qui est, elles sont orphelines de père et de mère. On a une extrême pauvreté en RDC en ce moment, particulièrement à Kinshasa. À l'époque, il y avait dans nos coutumes, c'était la famille s'occupe des enfants des autres. Mais aujourd'hui, la pauvreté fait que beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent plus prendre en charge, n'ont plus les moyens de prendre en charge des enfants des autres. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'enfants qui se retrouvent seuls. Les épidémies, etc. n'ont pas aidé parce que voilà, beaucoup de parents sont décédés. Le sida aussi n'a pas faciliter les choses. On a d'autres cas d'enfants qui sont victimes de violences sexuelles. C'est encore un énorme tabou dans les familles, contrairement à l'Est, où le viol est plutôt considéré comme une arme de guerre. À Kinshasa, c'est plutôt beaucoup d'inceste. Mmh. C'est quelque chose qui est très tabou, on ne veut pas en parler, alors que
pas
tout le monde sait...
Pas du tout médiatisé comme le viol, comme arme de guerre, qui a été largement médiatisé et financé,
on
d'ailleurs.
On ne veut pas en parler, pourtant c'est là. Juste pour vous donner un petit exemple de chiffres, les premières filles que j'ai récupérées, j'en avais 30. Sans savoir dans quel état de santé elles étaient, j'ai fait une première visite médicale. Et il s'avère que sur les 30, j'avais 11 enfants, 11 jeunes filles qui étaient victimes de violences sexuelles, dont la plus jeune qui avait 3 ans et demi. Et dans les 11 jeunes filles, 7, ça s'est passé dans les familles. Ça, c'est Kinshasa même. On va même pas rentrer dans le reste des provinces de la RDC. Donc c'est vraiment un énorme tabou sur lequel moi, j'essaye vraiment de travailler et de mettre la lumière là-dessus.
Reconstruire ces très jeunes filles de 6 à 13 ans, leur proposer un avenir, nous y revenons. Vous restez avec nous, Mouchka Teixeira, Muriel de Saint-Sauveur. On va parler juste après le flash de cette étude sur 3 générations de femmes dans une centaine de pays, sur la façon dont elles perçoivent les inégalités hommes-femmes. Et Elisabeth Birs du programme alimentaire mondial. Vous restez également dans le studio du Women's Forum à Deauville. 7 milliards de voisins, retour dans 3 minutes. Ça sera juste après le flash. Restez avec nous.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins au Women's Forum de Deauville avec trois femmes pour la cause des femmes. On a parlé des crises alimentaires, des fillettes des rues, de RDC ou encore des inégalités hommes-femmes dans le monde. Nouchka Teixeira, vous nous disiez juste avant le flash, puisque vous avez gagné ce prix de la Fondation Orange Women for Change pour votre foyer qui veut dire espoir en Swahili. Je vous laisse nous donner le nom d'ailleurs, le foyer des jeunes filles.
Matumaini.
Une trentaine de filles que vous recueillez. Alors, il y a plein d'associations qui font la même chose à Kinshasa. Vous dites d'ailleurs que ces associations n'ont pas toute bonne réputation. Vous vous battez pour que l'on croit en votre projet. Depuis plusieurs années, vous avez une trentaine de filles de 6 à 13 ans qui arrivent là. En général, vous nous le disiez, orphelines de père et de mère. Elles ont pratiquement toutes été abusées sexuellement, principalement d'ailleurs dans leur famille. Vous avez une estimation à la louche du nombre d'enfants à Kinshasa qui pourraient finalement figurer parmi le nombre d'enfants abusés sexuellement ?
Absolument pas, étant donné que c'est tabou, personne n'en parle, donc c'est quasiment impossible de mettre un chiffre là-dessus, je dirais. Moi, par exemple, je le sais parce que j'ai fait un examen médical sur des enfants que j'ai récupérés et c'est comme ça qu'on l'a su. Parce qu'au départ, quand je les ai récupérés, les personnes chez qui elles étaient ou les centres où elles étaient n'ont jamais parler de ça. Et je pense qu'ils ne le savaient même pas, en fait.
Comment expliquer que le viol comme arme de guerre à l'est de la RDC, ça a été non seulement largement médiatisé, mais du coup, ce drame a attiré les financements internationaux, alors que ce drame à l'intérieur des familles est largement méconnu, parce que très éloigné de la politique.
Pour dire exactement ce que je pense, sans trop entrer dans les détails, le phénomène de l'Est, c'est le phénomène du pompier qui allume le feu et qui, après, lui-même vient l'éteindre. C'est vrai qu'on a énormément d'organismes internationaux à l'Est. On a énormément de financements qui sont focalisés sur l'Est. Mais quelles sont les causes de notre guerre à l'Est? Les grandes sociétés qui sont à l'Est, il faut le dire.
Les intérêts économiques, géopolitiques, etc.
Ouais. On a énormément de ressources qui sont à l'Est. On sait exactement qui sont les personnes qui sont responsables des sociétés qui se trouvent à l'Est. Ce sont ces personnes-là qui attisent la convoitise à l'Est. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui nous envoient les organismes internationaux pour venir aider les personnes qui sont victimes de tout ce qui se passe à l'Est.
Ce qui veut dire que pour vous, votre modeste foyer à Kinshasa, qui accueille une trentaine de filles qui se sont retrouvées à la rue pour des raisons beaucoup plus privées, finalement, de pauvreté, comment vous faites pour faire tourner ce foyer?
Mais écoutez, j'ai commencé à fonds propres il y a bientôt 5 ans. Parce que quand j'ai été présenté mon projet, justement à cause de la mauvaise image des associations en RDC, tout le monde m'a dit, écoutez, madame, bonne chance. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je fasse les choses à l'envers. J'ai commencé d'abord toute seule.
Avec l'aide de votre mari, qui est homme d'affaires?
Tout à fait. Donc j'ai commencé à déposer des projets à gauche, à droite, en expliquant ce que je faisais. Merci aux réseaux sociaux parce que ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir montrer l'évolution de mon travail et comment est-ce que je comptais le faire et comment est-ce que je le faisais, qui étaient les enfants, présenter chacun des cas, etc. Au fur et à mesure, j'ai été voir les sociétés n'étaient pas trop intéressées. Dans ce que je fais, je pense que je suis une des rares à le faire à Kinshasa. On n'a pas tendance à se focaliser sur les jeunes filles. Et tout le monde me reproche, d'ailleurs, quand on vient à Matumaini pour la première fois, on me dit, mais pourquoi il n'y a que des filles? Où sont les garçons? J'ai dit, mais dans les autres centres, il y a énormément de garçons. Et c'est la question
C'était un choix délibéré.
Exactement. C'est la question que moi, je posais quand j'allais visiter les autres centres. Je disais, mais où sont les filles?
Pourquoi vous les prenez si jeunes, de 6 à 13 ans? Parfois même plus jeunes encore?
Parce que la mission de Matumaini aujourd'hui, c'est focaliser sur l'éducation des enfants et spécialement des jeunes filles. Comme elles sont mises de côté et que la priorité n'est pas d'éduquer une jeune fille, n'est pas de scolariser ou d'instruire une jeune fille. Moi, je les prends très jeunes parce qu'à 14-15 ans, c'est déjà assez difficile de récupérer une jeune fille de la rue et de la remettre dans un système scolaire. Alors que les petites filles, troisième maternelle, première primaire, on commence avec elles l'éducation, la scolarisation, l'instruction et on refait l'éducation de ces enfants. Surtout qu'elles sont, elles ont des problèmes déjà psychologiques, donc c'est une éducation psychologique, une éducation physique, c'est tout en fait qu'il faut faire avec ces jeunes filles. Une éducation hygiénique, c'est vraiment, c'est comme un bébé qu'on vient de mettre au monde.
Y compris à 13 ans.
Exactement.
Ouais. Que vous disent-elles?
Au début, elles n'ont pas vraiment compris ce qu'elles faisaient là. Elles se sont demandé, mais qui est cette femme qui vient nous ramasser dans la rue? Quel intérêt elle a à venir nous mettre dans cette maison? Pourquoi cette maison? Qu'est-ce qu'on fait là? Mais pourquoi? Il y avait beaucoup de pourquoi. Et en même temps, elles ont directement senti qu'il y avait de l'amour, il y avait le confort, le bien-être dans cette maison. Donc elles étaient un petit peu perturbées à se dire, je comprends pas très bien ce que je fais là, mais finalement je suis pas si mal que ça. Elles étaient très observatrices, très calmes. Et petit à petit, on les a très vite mises dans le bain, essayer de leur faire comprendre, voilà, vous étiez dans la rue, aujourd'hui je suis là pour vous donner un toit. Elles ont directement été inscrites à l'école, directement été prises en charge médicalement. Donc on a dû énormément parler avec elles. Après, maintenant qu'on ait réussi à installer cette confiance avec les enfants, on a dû passer à une deuxième étape de notre travail, c'est-à-dire maintenant soigner ses enfants.
Et prendre soin de soi-même, prendre soin de son propre corps, c'est tout un réapprentissage.
Exactement.
Hein,
déjà leur expliquer à celle qui avait subi les violences, leur expliquer que d'abord c'était pas bien ce qui leur était arrivé, et parce que c'était pas bien, leur expliquer pourquoi c'était pas bien, parce que dans le milieu dans lequel elles vivent, j'ai envie de dire, c'était normal. Et donc à la limite, c'est nous qui étions bizarres quand on leur disait non, mais tu sais ce qu'on t'a fait, ce n'est pas bien. On t'a touché, on t'a fait ça, ce n'est pas bien. Et elles te regardaient en te disant oui, mais c'est pas bien. Pourquoi mettre des mots là-dessus avec une gamine de 3, 4, 5 ans, c'était assez difficile.
Et ça prend du temps.
Ouais, et ça prend du temps.
Muriel de Saint-Sauveur, vous êtes directrice de la diversité du groupe Mazar et vous avez mené une enquête. Alors, groupe Mazar, c'est un cabinet de conseil, audit, stratégie, mais qui s'intéresse aussi à l'humain. Vous avez mené une enquête sur 3 générations de femmes dans une centaine de pays sur le thème de l'égalité homme-femme. Pourquoi cela ?
Le groupe Mazar, c'est un groupe d'audit et de conseil présent dans 72 pays avec 14 000 personnes. Pour soutenir le nombre de femmes qui pourraient gravir les échelons, il faut comprendre pourquoi il y a des freins dans les pays dans lesquels ce groupe est présent. Moi, j'ai toujours pensé que si l'on ne comprend pas, on ne peut pas forcer des gens à faire évoluer quelqu'un. Donc, on a commencé à travailler sur ces études avec un livre où on a interrogé des femmes, ensuite une étude sur la génération Y, puis une étude sur les hommes de la génération Y.
Et alors, après, génération Y, il faut dire ce que c'est.
Alors, la génération Y, c'est la génération qui est née entre 80 et 95 et que l'on appelle millénium dans certains pays. Ouais. Ensuite, je me suis dit, mais c'est intéressant de voir comment les femmes transmettent les droits, comment elles voient ce sujet aujourd'hui dans le monde.
Donc, 3 générations de femmes.
Elles ont entre 60, 70, 50, 40, et puis les dernières ont entre 20 et 30 ans. Elles sont toutes connectées puisqu'on a mené cette enquête par Internet.
Et avec des rencontres aussi.
Et avec des interviews plus qualitatifs.
Vous avez eu des surprises dans les résultats de cette enquête. Vous voyagez beaucoup depuis de nombreuses années, Muriel de Saint-Sauveur. Néanmoins, là, bon, vous êtes allé dans des pays extrêmement différents, près de 100 pays, du nord au sud.
Il y a 2 surprises. Et le fait que les femmes sont de plus en plus libres de choisir une profession et de travailler. Lorsqu'elles sont éduquées, lorsqu'elles réussissent à passer ce stade, elles sont libres ensuite de choisir un métier et elles sont à 77% décidées à travailler et à conquérir ce monde économique. En revanche, il y a toujours un mais, encore aujourd'hui, elles considèrent, pour 61% d'entre elles, que la maternité les discrimine. Et c'est très présent en Amérique latine, mais c'est aussi présent en Europe. Il ne faut pas croire qu'en France, on a un travail égal, un salaire égal. Et c'est la maternité et les enfants qui discriminent les femmes. Et puis, il y a un troisième point qui est important, c'est la façon dont elles veulent résoudre ce côté, je veux une carrière, je veux une famille. Elles attendent que leur partenaire, leur mari, les aide. Ça, c'est tout à fait normal. Mais la deuxième aide, elles vont la demander à leur employeur. Ce qui veut dire que l'entreprise, aujourd'hui, n'est pas seulement une entreprise qui doit gagner de l'argent et se développer, mais elle doit aussi comprendre que son personnel, c'est un homme qui est père et une femme qui est mère. Et ça, c'était pas prévu dans l'organisation de l'entreprise.
En tout cas, c'est vrai que plus de 60% des femmes qui répondent finalement du Pakistan à l'Amérique, oui, la maternité freine nos carrières. C'est vrai que là, on est vraiment sur des difficultés d'ordre universel propres aux femmes. Néanmoins, on a aussi des anxiétés qui sont propres à certaines régions du monde, notamment le harcèlement sexuel dans votre enquête.
Oui, et qui est de plus en plus important. Alors, il peut être plus ou moins violent. Mais il est reconnu par les jeunes femmes, c'est-à-dire que les plus anciennes disaient « j'ai le respect de ma famille » et leur fille dit « moi maintenant je veux le respect de la société ». Donc je veux pouvoir m'exprimer dans le monde extérieur et être libre de mes choix. Et 2, l'utilisation de mon corps qui n'appartient pas à la société mais qui m'appartient à moi. Et dans certains pays, et ce ne sont pas toujours les pays dont on a l'image qui sont des pays musulmans, dans certains pays, elles ont un mal fou à avoir cette liberté. Alors, au Pakistan, elles vont dire « moi je veux être libre de tout homme, mon père, mon frère, mon mari, ça n'est pas à lui de choisir ». Le machisme, il est aussi très présent en Amérique latine. On a quelqu'un qui vient du Mexique, là, qui m'en a beaucoup parlé. En Afrique, c'est beaucoup moins le cas parce qu'elles sont très fortes. Il y a d'autres problèmes, mais il y a moins ce problème du machisme. Et puis en Europe, on l'a aussi de manière très présente encore. On l'oublie.
Il y a eu un focus sur le monde arabe. Alors là, je dirais qu'elles veulent tout. Il y a la tradition, il y a l'émancipation.
Il y a un focus sur le monde arabe parce que j'ai été très étonnée du nombre de réponses. Et on a eu un taux de réponse par Internet, qui est un outil de liberté pour ces femmes extraordinaire.
Donc elles sont branchées réseaux sociaux, notamment les deux dernières générations, les plus jeunes.
La plus jeune, parce que j'ai eu beaucoup plus de mal de ma génération à avoir des réponses par Internet. En Irak, au Yémen, elles disent « je veux rire, je veux mettre une robe ». Sans être harcelé. Donc on a ce genre de demande. Et puis après, on a des demandes, je veux me libérer de cette pression sociale qui m'impose un choix. Et après, je veux avoir un choix dans ma vie, parce qu'au Moyen-Orient, le Bahreïn et le Koweït, ce qu'on ignore, a éduqué les filles dès les années 20, notamment au Koweït, où lorsque la famille n'envoyait pas les enfants à l'école, le père allait en prison. Et on a l'impression que ça n'est pas le cas, mais si, ça fait très longtemps que les filles du Bahreïn et du Koweït sont éduquées. Peut-être que dans d'autres pays à côté, on s'y est pris plus tard, dans les années 70. Et on ne va pas si vite pour changer les mentalités. Ça prend du temps. Et là, il faut changer les stéréotypes.
On a le sentiment néanmoins dans cette étude que la jeune génération est plus exigeante, plus intransigeante.
Ah, elle est totalement plus intransigeante. Ma génération s'est battue, et elles appellent d'ailleurs le féministe une bataille, parce qu'il fallait obtenir quelque chose. La génération suivante est en réseau de femmes et considère que c'est un mouvement social. Et la troisième génération, elle dit non, moi je le veux, je ne vois pas pourquoi je ne l'obtiendrai pas. Et donc soit elle est dans la rue dans certains pays, soit elle s'exprime sur réseaux sociaux, ça peut être violent comme les jeunes dans les pays en révolution, soit elle est en France et elle dit aussi, mais je ne vois pas pourquoi, dans l'école dans laquelle je suis, qui est une grande école de commerce, je subis du harcèlement. Ça se passe chez nous, ça.
Elisabeth Beers, vous souhaitez
réagir ? Oui, moi, ce qui me frappe, pour faisant partie de la même génération que vous, Muriel, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a l'impression, notamment en France, d'un retour en arrière. Et ça fait très, très peur. Parce qu'on a vécu les mouvements de libération des femmes, on a fait des avancées dans le domaine de la contraception, de l'avortement, etc. On a l'impression que le vent de l'histoire, là, le balancier va dans l'autre sens. Et c'est assez inquiétant.
Vous pensez à quoi, notamment les petites difficultés quand on va au planning familial, par exemple, pour certaines femmes?
Mais moi qui vis depuis 20 ans hors de France, je vois uniquement par le biais de la télévision, de la radio, etc., je sens, j'entends ce mouvement de conservatisme, en fait de régression qui me fait un petit peu peur. Des mouvements anti-avortement, des choses comme ça, c'est inadmissible.
Parce que certaines jeunes filles ont pensé que tout était gagné. Leur mère s'était battue pour avoir ceci et elles se sont aperçues que la vie était très dure et elles se sont dit, mais pourquoi je vais vivre cette vie dure? Et ce que aujourd'hui il faut comprendre, c'est que ça n'est pas aider les femmes que l'on demande, c'est avoir une société où la famille est partagée entre un homme et une femme, et dans une entreprise vous avez des pères et des mères, et c'est ça qui doit être fait. C'est pas aider les femmes, c'est partager.
Ne comptez pas sur un homme, comptez sur vous.
Absolument. Il faut que les femmes aussi, et ça, moi je milite pour les trainings de femmes qui ne doivent pas jouer à la fille. Jouer à la fille, pour moi, c'est être la jeune fille bien élevée qui attend qu'on lui dise « tu as une promotion ». Eh bien, il faut aller chercher la promotion, il faut la demander comme font tous les hommes qui travaillent depuis très longtemps dans le monde professionnel.
Nous, en Afrique, c'est encore différent parce qu'on a beaucoup le poids des coutumes. On a une façon de fonctionner chez nous. On sait que la femme, à la base, elle est faite entre guillemets pour rester à la maison, s'occuper du mari, s'occuper des enfants et s'occuper de son foyer, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour Kinshasa parce que c'est la ville que je connais le mieux. On a aujourd'hui énormément de femmes qui sont émancipées. Et je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il y a énormément de diaspora qui est de retour à Kinshasa, qui fait que les femmes aujourd'hui, elles ont envie de travailler. Et en même temps, on n'a pas forcément le choix, parce qu'aujourd'hui, quand on a un certain âge, moi je suis de la troisième génération, n'est-ce pas? Les enfants de
génération
Y, c'est
ça?
Exactement. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de mamans qui sont célibataires, elles doivent gérer leurs enfants seules. On a aujourd'hui un niveau de vie qu'on doit se donner, la vie n'est pas simple pour tout le monde. Donc le mari et la femme aujourd'hui doivent travailler. Kinshasa est une ville qui coûte extrêmement cher. Donc aujourd'hui, on est un peu en balance entre les coutumes et l'obligation de la vie d'aujourd'hui qui fait que le mari n'a pas forcément le choix que de laisser sa femme aller travailler.
Elisabeth a dit qu'on pouvait sauver le monde de la faim par les femmes.
Exactement.
Mais on peut aussi sauver le développement des entreprises
par les femmes.
Et les hommes. Donc aujourd'hui, Christine Lagarde l'a dit, par le FMI et les études qu'on sort, c'est par les femmes qu'on va changer le monde. Il faut que tout le monde le comprenne, et ça n'est pas contre les hommes, c'est avec eux pour les libérer aussi.
Et quand on dit ça ne veut pas dire être féministe, c'est que vraiment on a un élément en plus, on a des choses à apporter en plus dans ce monde, et c'est, je ne sais pas pourquoi ils se braquent pensant
mais
qu'on
non.
va venir envahir
Messieurs,
la planète.
Messieurs, c'est avec vous qu'on veut changer le monde.
Exactement.
The man is gone and mama says she can't live without him. The man is gone and mama says there is no life without him. The man is gone and mama says there is no life without him. She'd be hurt and sink. It pisses me off. It drives me mad that she lets herself feel so bad. Says that she can't live without him. The man is gone. Mama says there is no life without him.
Les super voix des jumelles franco-cubaines d'Ibéi, Naomi and Lisa Kende Diaz, qui chantaient Mama Says, Ibéi. 7 milliards de voisins, nous avons planté notre tente sur la concession du Women's Forum à Deauville, avec trois femmes qui se battent pour la condition des femmes. Muriel de Saint-Sauveur, vous nous parliez de votre étude, hein, trois générations de femmes qui se sont exprimées dans une centaine de pays sur finalement les inégalités hommes-femmes, et surtout sur ce qu'elles attendent à l'avenir, sur ce qu'elles demandent, hein, en tout cas pour la génération la plus jeune.
Et je pense qu'il est important de comprendre, c'est qu'elles demandent pour leur pays le travail des femmes, qui sauvera les femmes de l'indépendance, et dans le monde, l'éducation. Donc c'est par le travail et l'éducation des filles et des femmes que l'on va changer les conditions aujourd'hui pour lesquelles Elisabeth se bat.
Elisabeth Birce, justement, porte-parole du programme alimentaire mondial. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont majoritairement, en tout cas sur le continent africain et ailleurs, dans les champs.
Et en Asie.
Hein, et en Asie. Mm-hmm. Néanmoins, ce ne sont pas elles qui tiennent les cordons de la bourse de l'agriculture réellement.
C'est-à-dire que pour ça qu'il faut les aider.
Elles ne sont pas propriétaires de la terre.
Non, dans certains pays, elles n'ont pas du tout accès à la terre. Et
donc elles
sont considérées comme des enfants. Non, une femme doit avoir accès aux mêmes possibilités.
Le fardeau repose sur ses épaules.
Absolument.
Justement, alors pendant le disque, vous échangiez là sur le problème de la terre. Vous nous disiez, Nouchka Texera, que vous aimeriez bien aussi monter des projets en dehors de votre centre d'accueil pour fillettes de la rue, des projets autour de l'agriculture.
Oui, parce que quand j'ai commencé, étant donné que j'avais ce problème de financement, il nous manquait des fonds pour pouvoir nourrir ses enfants, je me suis dit, mais on est dans un pays où tu jettes une graine, dans une semaine, t'as un arbre qui pousse avec tout ce qu'il te faut dessus. Alors je me suis dit, mais voilà, pour nous aider, nous, à baisser notre budget, on va essayer de se nourrir tout seul. Donc j'ai réussi à acquérir un terrain, pas loin de l'aéroport de Kinshasa, et je me suis dit, je vais aller chercher des financements, quelqu'un pour m'aider. Je ne suis pas une agricultrice, je n'ai jamais travaillé la terre, je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai eu l'opportunité d'avoir ce terrain. Très bien.
Vous avez dit,
allez-y pour aller trouver
des femmes.
Exactement, parce que moi je m'étais dit, le projet en fait c'était de mettre en place une zone agricole où on avait une trentaine de femmes qui venaient travailler et je ne les rémunérais pas avec de l'argent. ce qu'elles pouvaient avoir dans leur champ quand elles travaillaient. Elles pouvaient ramener une partie à la maison, ce qui nourrissait ses enfants, et l'autre partie, Matoumaini pouvait le vendre pour nous autofinancer.
Le foyer pour filles.
Je suis allée chercher des financements. En même temps, je nous nourrissais et en même temps, je nourrissais une trentaine de femmes parce que la superficie que j'ai équivalait à ce genre de personnes. Donc, 30 personnes que je nourrissais, ça veut dire que c'était 30 familles qui avaient... Mais on ne trouve pas de financement. On ne nous aide pas. Et donc, du coup, ce terrain, ça fait un an qu'il est là. Il n'y a rien dessus. Et voilà. Je ne peux pas être sur tous les fronts en même temps. Je ne peux pas et nourrir mes enfants et aller trouver de l'argent pour construire la zone agricole.
Vos enfants, c'est-à-dire les 30 filles
J'ai toujours mes enfants, mais bon, mes 30 jeunes filles. C'est assez compliqué. Donc, du coup, les organismes internationaux qui sont là en disant on veut aider, il nous manque des financements, il nous manque ceci. Mais trouver les personnes alors qui sont volontaires, qui sont prêtes à faire le travail, parce qu'on est là. À Kinshasa, je peux vous trouver des centaines de femmes qui seraient prêtes à travailler dans les champs aujourd'hui, mettre en place des zones agricoles. Mais où sont ces financements? On ne peut pas tout faire tout seul.
Muriel de Saint-Sauveur.
Oui, je voulais justement faire remarquer que c'est important que les entreprises comme les nôtres soient également en partenariat avec des grands organismes. Nous avons monté notre enquête avec le Comité France de l'ONU Femmes, parce que ces deux mondes qui ne se connaissent pas bien doivent se côtoyer, parce que c'est en réfléchissant ensemble qu'on trouvera des solutions pour faire avancer nos problèmes.
Non seulement vous ne vous connaissez pas bien, mais c'est vrai que vos entreprises privées, multinationales, etc., redoutent le monde des ONG, redoutent le monde des organisations internationales humanitaires.
Alors, je ne crois pas qu'on les redoute chez Mazars, parce qu'on a nous-mêmes développé un métier qui est l'audit des droits humains pour aider les entreprises à s'assurer que dans tous les pays, les filiales d'une société respectent les droits sociaux. Donc, on ne les redoute pas. Et je crois que depuis une dizaine d'années, on a quand même vu les entreprises se rapprocher des grands organismes et des donneurs, ce qu'on appelle les bailleurs de fonds. Et c'est bien, parce que c'est ensemble qu'on va changer les choses. Il ne faut pas que l'un reste indépendant de l'autre. C'est un partenariat nécessaire.
C'est pour ça que le réseautage que nous avons ici est super important, parce que moi, par rapport à mon activité, c'est super difficile d'accéder dans les bureaux. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui éventuellement pourrait t'emmener à avoir un rendez-vous. Alors que dans ce genre d'événement comme le Women's Forum, ça nous permet d'aller directement vers les personnes concernées, les départements concernés. Et c'est beaucoup plus facile pour nous parce que c'est impossible d'accéder dans les bureaux quasiment... Je ne veux pas dire 90% des fois, mais on ne vous reçoit pas. C'est aussi simple que ça.
Ça nous donne déjà deux, trois idées. Lisa et Denouchka, des idées de contact avec des journalistes spécialisés. Idées en tête.
Au programme alimentaire mondial, en même temps, l'ampleur de la tâche est gigantesque. Hein. Vous avez dit pour 2015, il vous faut plus de 8 milliards.
8 milliards, c'est ça, de dollars.
Et vous ne faites pas peur aux entreprises en même temps quand
je
vous dites
ça. Je ne sais pas s'ils ont peur, mais enfin, le gros de nos contributions vient des gouvernements.
États, bien évidemment.
États.
Mais c'est fondé sur des contributions volontaires. Hein,
oui, absolument.
PAM.
Entièrement volontaire. C'est pour ça qu'on dépend. Vraiment, on est dans la main des comptes. Des
imaginez maintenant, avec les milliers d'hectares que nous avons en RDC, combien de personnes on peut nourrir.
Il y a de quoi. Il y a les moyens de faire manger tout le monde. C'est 805 millions
parce que moi,
personnes.
Comme j'ai toujours dit, je ne comprends pas comment la RDC peut être un pays dans lequel on meurt de faim. On a des milliers d'hectares disponibles et comme j'ai dit tout à l'heure, on jette une graine dans ce sol et on a tout ce qu'il faut dans la semaine qui suit, dans les semaines qui suivent. Je ne comprends pas.
Oui, vous avez eu 7 millions de morts depuis le début du conflit.
Vous entendez le chiffre 7 millions de morts.
7 millions ou des conséquences de la guerre.
Oui.
Ou de la guerre.
La faim ne touche pas que la partie en conflit de la RDC. Donc ça prouve bien que ce n'est pas qu'un problème
RDC,
de conflit. On est bien d'accord.
C'est un problème bien plus structurel. Les milliers d'hectares dont je parle, c'est dans toute la RDC. Et ça ne se justifie pas qu'aujourd'hui le PAM ait des problèmes pour nourrir des personnes, qu'en RDC aujourd'hui il y ait des gens qui meurent de faim, alors que voilà, il y a des femmes qui sont prêtes à travailler dans cette terre. Mais on n'a pas les financements pour les mettre en place.
Et que le maître mot maintenant, c'est la résilience, c'est donner les moyens justement à ces femmes, même ces petits paysans. De prendre en main et d'être autarcique, de pouvoir
gérer
leur...
Mesdames, nous arrivons au terme de cette émission. Je sais, ça passe beaucoup trop vite. Anouchka Texera, Elisabeth Birs, Muriel de Saint-Sauveur. J'aimerais que vous nous disiez d'abord à la lumière de vos expériences personnelles et puis comment vous en êtes arrivé au fil de votre propre vie à vous intéresser, à vous engager pour la cause des femmes. Aujourd'hui, quel est le message que vous avez envie de faire passer? Quelles sont les actions immédiates qui pourraient se déclencher et changer la face du monde pour les femmes aujourd'hui, selon vous?
Pour moi, il faut absolument mettre l'accent sur l'éducation. Je pense qu'on sera toutes les trois d'accord. Tout part de l'éducation de la jeune fille. À partir du moment où on a des jeunes filles éduquées, on aura des femmes qui seront instruites et on aura des femmes qui seront capables de faire énormément de choses. Je dirais pas de changer le monde, mais presque. J'ai envie de le dire quand même.
Muriel de Saint-Sauveur.
J'ajoute sur l'éducation, il faut donner confiance aux femmes. Parce que on a sur notre dos des siècles de stéréotypes qu'il faut changer. Et ça, ça fait partie de l'éducation, mais aussi après, de mentors que les femmes doivent trouver pour avoir le courage de demander. Parce qu'il y a encore des pays dans lesquels si une femme demande, elle est mal vue. En Chine, on me disait tout à l'heure, mais une femme de pouvoir, elle sera pas épousée. C'est terrible.
Elisabeth Birce.
Éducation, santé, et justement pas construire un monde contre les hommes, mais justement être complémentaire. L'éducation, quand on apporte un repas dans les écoles et qu'on donne en plus le repas pour la famille le soir, les parents, notamment en Afghanistan, envoient la petite fille à l'école parce qu'elle revient le soir avec la nourriture pour toute la famille. Il faut continuer comme ça.
Merci à vous trois, mesdames. Vous repartez respectivement à Genève pour vous, pour le PAM, Elisabeth Birce, à Kinshasa dans quelques temps également pour vous, Nouchka Texera. Muriel de Saint-Sauveur, Mazar, l'étude sur les trois générations de femmes est disponible sur Internet.
Absolument.
Le lien est sur la page, et le lien est sur la page des 7 milliards de voisins, RFI.fr. Vous avez également publié en 2011 Un monde au féminin serait-il meilleur, avec un grand point d'interrogation. Je pense qu'on a partiellement répondu à la question. C'est publié aux éditions de l'Archipel, c'est traduit en anglais, en russe. Et en chinois, merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins à Deauville, Cécile Lavolo, Romain Dubrac. Allez sur la page de l'émission RFI.fr, vous y découvrirez également des photos du Women's Forum de nos invités. Lundi, 7 milliards de voisins. Je laisse les clés de la maison à Anastasie Tudiech. L'émission sera consacrée au slow food. Alors là, on sera loin des crises alimentaires. Il y a de tout dans l'émission. Vous savez, c'est une tendance d'alimentation venue d'Italie pour manger mieux et plus lentement. Si vous vous interrogez sur l'alimentation, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et vous dialoguerez avec ma voisine Anastasie Tudiech.